Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, l'actualité de la pop culture très tôt le matin à la radio, ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast, disponible sur l'application de Radio France par exemple, ou encore en quelques clics à partir de franceculture.fr. Corinne Amar et Cyril Marchand à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, avec à la prise de son ce matin Laetitia Delgado. Tous les vendredis, c'est l'actu BD, et aujourd'hui, on va parler du retour de Corto Maltese dans une nouvelle aventure, Le jour de Taroan. Les deux auteurs qui, depuis 4 ans, ont la tâche de faire revivre le héros en papier mythique créé par le non moins mythique Hugo Pratt, à savoir Juan Diaz-Canales au scénario et Ruben Pellejero au dessin, sont mes invités aujourd'hui. Et en deuxième partie, et depuis Lyon, en grand admirateur de Corto et enfin connaisseur de l'œuvre de Pratt, le philosophe Tristian Garcia nous livrera ses premières impressions sur ce troisième Corto Maltese réalisé par le tandem espagnol. Le jour de Taroan, édité par Casterman, est en librairie depuis cette semaine.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Hola, bonjour Juan Diaz-Canales et Ruben Pellejero. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous continuez donc à voyager dans le monde de Corto Maltese après l'Alaska dans Sous le soleil de minuit. Après les tropiques dans Equatoria, on revient là où tout a commencé, c'est-à-dire votre troisième corto d'après Pratt, le jour de Taroan. On revient aux sources, c'est-à-dire sous les attitudes du Pacifique. Ceux qui connaissent la vie du marin pirate ont tous en tête sa première apparition, en naufragé, attaché à une croix flottante entre les îles Fidji et Marshall. C'était bien sûr dans la balade de la mer salée, deux ailes à balade bien sûr. Autant dire un des chefs-d'œuvre du 9e art qui révéla un grand auteur, Hugo Pratt. Alors, votre album raconte les quelques semaines d'avant la balade de la mer salée. Le jour de Taroan s'arrête d'ailleurs sur l'image de Corto Maltese jeté à la mer. C'est aussi la couverture de votre album. On savait depuis quelque temps que ça allait être un préquel. Mais qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce une manière de marquer les 50 ans de cet album révolutionnaire devenu un grand classique? Car c'est effectivement bien en 1969 qu'Hugo Pratt achève la publication de la balade de la mer salée. Ou est-ce pour d'autres raisons? Ruben Pellejero.
Tout commence parce que j'ai pensé un jour que pourquoi ne parler pas de l'avant de la balade de Marsalais, parce que il y a une case qui prend dessiner, que Corto raconte un peu pourquoi il se trouve dans la mer, perdu, crucifié dans les voies, non? J'ai parlé avec Juan et je lui ai dit comme ça, pourquoi nous pouvons faire une chose que je pense que beaucoup de lecteurs on peut imaginer, on peut dire qu'est-ce qui passe avant de la première histoire qu'il y a les personnages. Je pense que j'ai trouvé très, très intéressant de faire quelque chose avant. Et Juan, il est d'accord, il trouvait une bonne idée pour qu'en même temps, changeons beaucoup d'endroits où passe le dernier album que nous avons fait. Et c'est comme ça, d'une manière facile de.
Quand vous dites d'une manière facile, c'est plus facile d'imaginer Corto Maltese avant son apparition dans la balade de la mer salée plutôt que d'imaginer une suite à ses aventures et donc une suite à l'œuvre d'Hugo Pratt. Juan Diaz-Canales?
C'est une très bonne idée parce que, bien avant qu'auteur, nous sommes aussi des lecteurs de Corto. Donc, c'est vrai ce que dit Ruben. On a la curiosité, comme la plupart des lecteurs, de savoir pourquoi il est arrivé à ce point-là d'être abandonné au milieu de l'océan Pacifique. Et puis, il y a déjà un univers établi, tout ça qui se passe dans les îles pendant le récit de la balade de la mer salée, avec beaucoup de personnages très riches, très, très mystérieux, très, qui sont un cadeau pour un raconteur. Donc, on a profité bien la présence de Rasputin, bien sûr, mais aussi de Dumois, de Cranion, et beaucoup des autres personnages qu'on va connaître depuis la balade. Donc, la vraie difficulté, c'est plutôt savoir comment il est arrivé là. et faire un structure, parce qu'en fait, c'est pas quelques semaines, c'est la structure du récit des jours de Tarouéan, c'est plutôt un bonne année. C'est
il y a des saisons, effectivement. Ouais.
On a choisi un structure circulaire du récit qui commence les jours de Tarouéan, que c'est les jours de Toussaint et tout ça.
Aujourd'hui, les jeunes disent Halloween et voilà, ils ont réglé tout
Halloween,
ça.
Halloween, c'est ça. Et qui finit exactement un année après.
Et donc, juste avant la balade de Marsalais.
Oui, c'est ça. Et parce qu'il nous a paru intéressant d'avoir un structure circulaire pour retrouver un peu la toute première aventure de Corto. Ça nous a dit que c'est à mon idée.
Le réveil culturel.
Dire, à mon connaissance, il n'y a que la seule la référence que Corto fait dans la balade et que c'est en fait une référence très floue sur une espèce d'affaire qu'il a eue avec une sœur d'une personne qui l'accompagne dans les bateaux et tout ça. Et après ça, il n'y a des indices ni des documentations de Prague qui a développé plus l'histoire de...
Donc tout était en friche, donc vous pouviez effectivement...
Il y a toujours des références. D'abord, dans la balade de la Marsalais, il parle qu'il travaille, par exemple, pour les moines depuis quelques temps. Il connaît déjà Rasputin. Il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà sur l'histoire qui se passe un peu avant, mais sont pas vraiment en contrainte. Ce sont plutôt des indications pour situer les personnages et les métiers qu'il avait à cette époque-là, que c'est les métiers des pirates. Mmh. Et voilà, c'est tout. Le reste reste un peu flou et on a profité ces vides narratifs pour les remplir avec notre idée à nous. Et c'est pour ça que...
Avec votre idée à vous, votre imaginaire, et avec, je suppose, l'accord des ayants droit, comment on fait un Corto Maltese? Il n'y a pas un droit de regard des ayants droit de l'éditeur? Corto Maltese n'est pas une bande dessinée comme une autre. Hein. C'est à la fois un enjeu commercial, c'est aussi le personnage d'un des plus grands auteurs de la bande dessinée.
Mais tout à fait. Mais quand Patricia Zanotti, que c'est l'ayant droit, la personne qui garde les droits de Bob Pratt, m'a proposé d'écrire les scénarios de tout premier album, elle déjà nous a laissé la liberté total de raconter l'histoire qu'on veut. En fait, Patricia, elle a toujours dit que Bob Pratt travaillait toujours dans la... Et en plus, il a lutté pour la liberté créative. Donc, c'est pas question de nous dire, de nous guider dans un sens créatif. Donc, on a travaillé dans la complète liberté. Il y a toujours des choses qu'on peut pas faire parce qu'on du moment qu'on a choisi respecter la chronologie du personnage, on doit raconter des histoires qui sont pas racontées déjà. Ça veut dire qu'il y a des morceaux de la chronologie qui sont déjà racontés, tout ce qui se passe pendant la guerre mondiale, la première guerre mondiale et tout ça, c'est déjà raconté, on peut pas toucher ça. Mais par contre, il y a d'autres espaces blancs dans la chronologie du personnage qu'on peut développer et c'est ça qu'on fait.
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
Pour ce troisième album que vous signez, et donc ce sont aussi les premiers albums de Corto Maltese sans Hugo Pratt, Le jour de Tarawin par exemple, est-ce que vous êtes plongé, vous deux, Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero, dans la période de ce début du XXe siècle, ou est-ce que quand même vous êtes rattrapé par l'actualité? Parce que quand on lit cet album de Corto Maltese, on voit bien qu'on est confronté à des enjeux qui sont toujours contemporain ou plus que jamais contemporain. Le discours sur le colonialisme, par exemple, très présent.
Malheureusement.
Bah oui. sur le pillage des forêts présentées comme des crimes écologiques. Là aussi, on sent bien les temps présents dans votre travail sur la révolte des opprimés, les indigènes, mais surtout les femmes. Mm-hmm. Et puis, bien sûr, sur la place de la religion, les sectes, la raison d'État. Tout ça, on a l'impression que c'est du Corto Maltese remis à son époque, mais nourri par les temps présents, non?
Oui et non, ça veut dire, ce sont des sujets qui nous intéressent, ce sont des sujets encore d'actualité, malgré tout, mais la limite pour nous, je crois que c'est de rester, de faire face à ces sujets d'une façon honnête, pour ne tomber pas dans les anachronismes. Ça veut dire, Corto n'est pas du tout un héros écolo, ça c'est pas question, mais à mon avis les problèmes des indigènes c'était déjà un problème qui a beaucoup à voir avec toute la surexploitation des ressources naturelles et tout ça, et c'est pour ça que ça tombait bien parler de ça. Et pareil avec les thèmes de femmes par exemple, parce que dans l'île il y avait beaucoup des sociétés qui étaient encore en matriarcal avec un présent de la femme importante et tout ça, donc ça c'est un peu le limite. Si ça colle bien avec une histoire qui peut se dérouler dans cet âme-là, si ça tombe dans l'anachronisme, on attaque.
Oui, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, Ruben Pellejero.
Pour mon côté, je pense que Juan Diaz fait son métier, évidemment, il a la chose qu'il voulait raconter, c'est son papier dans l'album, et le mien, c'est de raconter la meilleure manière possible. Je m'occupe évidemment plus de dessin que plus de l'histoire, mais cette manière de travailler parmi les deux, c'est, pour un côté, ne c'est pas nouveau, pendant un scénariste et un dessinateur. Mais cette liberté qu'il a parlé, c'est une liberté à deux, que nous sommes bien assemblés pour faire.
Alors, puisque vous êtes le premier à recevoir les informations de Corto Maltese, en quoi il est différent dans cette aventure, le jour de Tarawin? Qu'est-ce qu'on apprend de plus sur Corto Maltese?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à niveau littéraire. Juan, il a parlé déjà. Il raconte dans l'univers prattien des choses qui sont vraiment actuelles encore. On peut donner une d'autres évolutions du personnage en même temps. Si bien à son personnalité propre, Corto Maltese, peut-être que l'histoire qu'il raconte, il y a un côté peut-être différent. Mm-hmm. Parce que c'est que.
Vous le trouvez un peu
que
plus.
Tout dit déjà. Ouais. Il y a des manières de raconter les histoires dans l'histoire, qu'il y a plusieurs histoires dans la même histoire, que peut-être c'est différent. Qu'est-ce que fait Hugo Pratt? Je pense que c'est ce côté d'actualité, ne peut dire modernité, mais c'est l'actualité qui fait différent l'histoire qui raconte Juan. Et pour mon côté, je pense que c'est le même. Je le donne que c'est mon travail dans la série, c'est de donner une côté plus actuel, mais en même temps, sans m'éloigner beaucoup de la sensation artistique ou de recevoir l'aventure comme fait les maîtres. Non.
Par exemple, Corto Maltese est plus sexy que jamais, hein, sous votre plume. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une ambiguïté sexuelle sur Corto Maltese, la première fois d'ailleurs, dans le récit de Juan Diaz Canales?
Je ne pense que oui. Je pense qu'encore, Corto Maltese, c'est un personnage très attractif, très séduisant. Et pour mon côté, je voulais que ça, c'est très évident, mais
pas, il est assez ambigu avec les femmes dans cette aventure, on est d'accord.
Il allait directement à jouer un papier de séducteur. Je pense que c'est plus, comment on dit, il y a un côté, on peut dire, sensuel du personnage, mais pas d'une manière très évidente, je ne sais pas.
Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero qui ont repris Corto Maltese sont mes invités ce matin à l'occasion de la sortie de leur troisième Corto Maltese, Le jour de Tarouane, et en direct de Lyon, le philosophe Tristian Garcia est avec nous. Bonjour Tristian Garcia.
Bonjour.
Alors, vous l'avez lu, on sait à quel point vous êtes un grand fan de Corto Maltese, un connaisseur aussi de l'œuvre d'Hugo Pratt. Comment vous avez lu cette troisième aventure du tandem Canales et Pellejero, c'est-à-dire Le jour de Tarouane?
C'est un très bel album, c'est un album qui doit respecter un certain nombre de contraintes hein, dont on a déjà parlé, c'est normal, il y a forcément un cahier des charges, on retrouve, puisque vous parliez de caractère de séducteur de Corto, on retrouve aussi le personnage d'une femme désœuvrée, séduite par Corto. Il y a des thèmes politiques, la domination coloniale qu'on retrouvait dans d'autres histoires de Corto qui se passaient au Brésil par exemple, mais il y a aussi des moments de liberté, presque de dérive, aussi de liberté graphique. Je pense à des très belles planches qui utilisent des ombres découpées qui rappellent l'influence chez Hugo Pratt de Milton Caniff, par exemple, du grand dessinateur américain. Et on retrouve la liberté graphique comme ça, qui est forte dans cet album et qui lui donne aussi une couleur moins contrainte, poétique et plus de temps. C'est un album aussi, me semble-t-il, moins dense que les précédents en narration. Plus contemplatif parfois, et que j'ai trouvé très beau.
Corto Maltese est dans son élément là où les frontières ne sont pas nettes, là où les appartenances nationales, ethniques, politiques et confessionnelles se chevauchent dans des zones de troubles identitaires. C'est un homme des Balkans, du Caucase, du Kurdistan, des ports, des cités frontalières de Venise ou de Trieste, des archipels et des interzones. C'est ce que vous écrivez à propos de Corto Maltese, Tristian Garcia. Si je vous posais la question, comment vous ressentez ce personnage? Comment vous le présentez? C'est plutôt un idéaliste cynique, un homme d'un ancien monde, un homme qui vit toutes ses contradictions dans une sorte de détachement ou d'harmonie. Comment le définir, Corto Maltese? Comment vous, le philosophe, vous pouvez le définir?
D'abord, c'est un personnage, et c'est peut-être pratique pour le reprendre, c'est un personnage qui n'a jamais été actuel. C'est d'emblée un personnage nostalgique, qui est nostalgique d'une période de l'histoire qui est révolue au moment où Pratt l'invente. Pratt est déjà dans la modernité des années 70 puis des années 80, et Cortot représente un personnage qui est de toute manière, même dans sa biographie, hein, destiné à mourir. Alors il y a plusieurs versions possibles de sa mort imaginée, soit mourir pendant la guerre d'Espagne et mourir avec une sorte de romantisme révolutionnaire, soit de s'éteindre à l'écart du monde dans une île du Pacifique des années plus tard. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est inactuel. Donc il n'a pas à être rendu de nouveau actuel, il n'a pas à être notre contemporain, puisqu'il n'a jamais été contemporain. Il n'est pas contemporain du monde.
Néanmoins, comment le définir ?
C'est un personnage. Alors ça, c'est légèrement différent dans la reprise, je trouve. C'est quelque chose qui peut se discuter dans le dernier album, par exemple, à plusieurs reprises. Je pense à des moments où Corto Maltese, par exemple, donne symboliquement à un autre personnage une sorte de leçon en lui disant qu'il faut être juste. Corto, en fait, est un personnage qui sait régulièrement, pas toujours, mais qui sait aussi être désagréable. Il n'est pas Raspoutine, hein, mais c'est un personnage qui n'incarne pas le bien. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a beaucoup marqué dans la bande dessinée européenne. Ça a été un des premiers héros qui ne se présentait pas comme une sorte de scout idéalisé, hein, que ce soit Spirou ou Tintin, ou en tout cas tous les grands personnages, surtout franco-belges, qui étaient au service d'une vision, voilà, un petit peu enfantine de la justice, du bien ou de la morale. C'est un personnage qui n'a pas vraiment de morale, qui s'attache simplement à ceux qu'il rencontre, ceux et celles qu'il rencontre. Quand il rencontre quelqu'un, quand il rencontre une cause, parfois, c'est le cas aussi dans cet album, une cause révolutionnaire, une rébellion, il va s'y attacher, mais il s'y attache parce qu'il a rencontré quelqu'un, parce qu'il a rencontré une personne. Pas à cause de la justesse de l'idée. C'est un homme de rencontre, de dérive et de rencontre, qui n'a pas vraiment de morale constituée, qui n'est pas foncièrement bon, qui n'est pas foncièrement juste.
Et qui préfère être plutôt spectateur des conflits, parce que là, il le répète encore dans cette aventure, le jour de Tarouane, je voudrais avoir le point de vue des uns et des autres, mais je ne suis pas obligé de prendre parti. C'est ce qu'il dit, c'est quand même incroyable.
Oui, il y a cette espèce de dégagement toujours du personnage qu'on retrouve là aussi, qui est un personnage qui, alors à moins qu'il ne soit obligé par les événements d'intervenir, de sauver quelqu'un, hein, c'est le cas aussi dans le dernier album, préfère en général se tenir à distance des camps. Il y a des camps dans le monde, il y a des guerres, il y a des conflits, et Corto est l'idéal d'un personnage individualiste, alors teinté de romantisme, qui refuse l'engagement, qui refuse d'être dans un camp, et qui donc, pour cette raison, en général, préfère être observateur du conflit, mais qui, évidemment, toujours par un artifice narratif, se retrouve obligé de prendre un minimum parti.
Espíritu que fonge llévame, es mi mente que al silbar encanta, hay un perro que me ladra y está afuera desde aquí.
Merci Tristan Garcia. Je rappelle que vous venez de sortir une collection de livres théoriques sur le 9e art. Cette collection comporte donc un numéro consacré à Corto Maltese, mais à une autre aventure de Corto Maltese, Les Fables de Venise, par Nicolas Télope. S'il fallait continuer ce travail théorique sur Corto Maltese, vous diriez aujourd'hui qu'il a, comme vous l'avez d'ailleurs écrit pour le premier album du tandem Canales et Pelerello, c'est quelqu'un qui correspond à cette époque, même s'il nous vient de très très loin.
Oui, c'est un personnage qui est à l'aise dans le trouble, qui est mal à l'aise avec les idées claires, qui est mal à l'aise avec les frontières nettes, qui n'est pas à l'aise d'ailleurs, même géographiquement, avec les États-nations, qui est toujours entre deux, sur des frontières. Et de ce point de vue-là, il a une chance de revenir dans le monde actuel. Non, il a une chance de revenir dans un monde trouble où les frontières s'estompent.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Merci Tristan Garcia en duplex de Lyon. Merci aussi à Juan Diaz,
Canales et Ruben Pelejero d'être venus nous parler de leur troisième Corto Maltese, Le Jour de Tarouane. Je suppose que vous êtes déjà sur le quatrième.
Oui, lentement, mais ça démarre. Oui.
Ça prend combien de temps de réaliser un album de Corto Maltese?
L'idée, c'est de revenir chaque 2 ans. Donc, comme tu as rendu qu'il y a aussi un travail de promotion et tout ça, pendant lequel c'est compliqué de travailler. Environ un an ou un an et demi, c'est à peu près c'est ça.
Bon courage, merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.
Merci.